vacances, tu penses pas? Et alors les bêtes?
Je suis pas surpris. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu tiendrais pas le coup. On aura beau vous apprendre le métier dans les écoles, c'est pas un travail de femme.
CO2, mon amour.
La terre, ça demande du courage, de la force musculaire, de la constance. Vous, les femmes, vous changez d'humeur comme vous changez de vêtements.
Vous êtes vraiment aigri à arriérir.
Tu méritais pas ma firme.
Denis Chessou.
Tu sais quoi? T'es vraiment un vieux con.
Bonjour à tous, allez-vous bien? En tout cas, je l'espère. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec aujourd'hui Vincent Godard et Julien Michel à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Avec une petite humeur qui touche l'actualité. Alors messieurs, je vous ai réunis en tant que membre du conseil d'administration de la Golden Destructive Pollution Bank. Car la situation se complique. Nous avons méticuleusement pillé la planète, spéculé sur tout et n'importe quoi. Charbon, pétrole, pesticides, céréales, ivoire, métaux lourds, les armes bien sûr. Nous avons vendu des maisons en zone inondable, que sais-je. On a tout fait. On a su créer avec fierté des besoins inutiles et alliés. Non pour les populations solvables. Nous avons vendu tout cela en parlant de progrès. Nous avons mis les États à genoux, nous en avons acheté d'autres et nos amis GAFA couronnent le boulot en transformant l'utilisateur des réseaux sociaux en produit. Tout était donc parfait. Et alors là, mes amis, ce rapport est tombé cette semaine. 15 000 scientifiques de 184 pays signent un appel pour l'environnement. Ils nous disent, si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est indispensable d'opérer un changement profond de notre gestion de la terre, de l'économie et de la vie qu'elle recèle. Augmentation des pollutions, des gaz à effet de serre. On sent bien qu'ils cherchent à nous culpabiliser en nous disant qu'on a déclenché un phénomène d'extinction de masse des espèces. Bon, alors certes, en 1992, tout était, mes amis, déjà sur la table. Mais entre-temps, 2 milliards de consommateurs. Ah non, c'est pas le bon mot, c'est quoi? Ah, c'est des gens, c'est ça. Alors, 2 milliards de gens, en plus, sont arrivés sur Terre. On ne fait pas de business sur une planète morte, rappelle Vandana Shiva. Mais moi, je suis surpris que nos milices n'aient pas encore mis en prison cette dangereuse activiste indienne. Alors, messieurs, je vous ai réunis parce qu'en fait, qu'est-ce que l'on fait? Sur quoi on doit investir et spéculer demain? Je vous écoute. Sur de l'air pur? Ah, très bonne idée, c'est très bien, l'air pur. Sur de l'eau encore propre? Ah, ça, c'est pas mal. Les forêts? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me dites que tout ça, c'est ce qu'on appelle des biens communs? Ah mais alors, vous achetez quelques politiciens, quelques commissaires européens, quelques juges, et puis bah, les biens communs, bah, ils sont à nous, et puis c'est tout. La nourriture, ah bah oui, de toute façon, il faut privatiser de plus en plus le vivant. Alors, pour l'air, on va quand même trouver un prix, hein, parce que 15 000 litres par personne et par jour, ça nous fait quand même un bon public captif, une mise aux enchères et hop, ça partira vite, se lancer dans les robots. Ah, mais oui, bonne idée. Donc, créons des robots de toutes les espèces qui sont en train de disparaître, grâce à nous, visons d'Europe pour ce blanc, grand tétra, batracien. Non, très très bien, je retiens ça. Abeilles, rhinocéros, excellente idée. Oui, mais alors, monsieur le Président, le rapport de nos amis scientifiques du monde entier, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a déjà calé un meuble, on l'a fait, je vous le rappelle, avec les 50 précédents rapports, dont celui du Club de Rome. Là, tout est calé. Non, ce que vous allez faire, vous l'imprimez sur du papier recyclé, vous le mettez au compost, vous tweetez qu'on aura fait un geste pour la planète, et tout ira bien. Une autre question? Merci, messieurs. Et on va débuter par notre partie, donc actualité. J'ai pas parlé de la pêche, et non, mais on va le faire tout de suite. Je suis un poisson. Alors moi, je dis oui en tant que poisson au vélo électrique. Je dis oui aussi à la voiture électrique. On peut discuter, mais en tout cas, je dis oui à la voiture électrique. Mais alors, la pêche électrique, moi, je dis non. Bonjour Claire Nouvian, vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Bloom, qui depuis des années, vraiment, mouille la chemise et y va pour nous sensibiliser sur une pêche qui est durable. Alors, s'il vous plaît, donc faites-nous un petit peu le point sur cette pétition. On attend un peu votre signature.
Bonjour Denis. Depuis 2007, alors que la pêche électrique qui utilise donc du courant électrique pour créer des convulsions dans les poissons pour qu'ils sortent du sédiment et qu'on puisse les attraper plus facilement, cette méthode de pêche est interdite en Europe depuis 1998, mais depuis 2007, la Commission européenne accorde des dérogations.
Eh oui.
C'est notre spécialité. Et donc, depuis 2007, les Pays-Bas, qui avaient une grosse flotte de chalutiers, qui étaient des chalutiers à perche, c'est des chalutiers vraiment très impactants, ils détruisaient clairement l'environnement marin et ils consommaient énormément de gasoil. Donc, ils étaient un petit peu en déroute financière. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour gagner en fait sur nos économies de carburant, parce que c'était vraiment ça leur gros enjeu. Et ils ont inventé cette méthode qui est forcément radicalement efficace, hein, puisque quand on électrocute la vie marine, ça c'est sûr que les poissons se convulsent, sortent du sédiment et sont tous attrapés. Donc évidemment, ça pose d'énormes problèmes.
Et ça flingue évidemment aussi tout un milieu qui est autour.
Les pêcheurs industriels néerlandais nous disent « mais non, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une électrocution, évidemment, blablabla ». En réalité, on n'a absolument aucune quantification des impacts sur les œufs, les juvéniles, et puis les poissons. Il faut quand même savoir que les raies, les requins, etc. sont des poissons qui utilisent l'électricité pour se déplacer, pour opérer leur proie. Donc on imagine la bérésina. Alors évidemment, on a une espèce d'évidence empirique, parce qu'on a un retour des pêcheurs artisans notamment, qui sont mais dans un état de tension. Je peux pas vous dire, on a vu cette semaine à Londres une confrontation entre les pêcheurs artisans anglais qui hurlaient contre les industriels néerlandais en leur disant « vous êtes en train de tuer la ressource. Quand on passe derrière vous, c'est un cimetière. Il n'y a plus rien. Vous êtes irresponsables. Et en plus, vous êtes en train de créer nos banqueroutes. » Des pêcheurs de Hollande, de Belgique, des Pays-Bas, de France, d'Angleterre qui ne se sont pas parlé entre eux avant, disent tous la même chose. En fait, c'est d'une telle efficacité qu'on est vraiment en train de transformer les océans en déserts. C'est ahurissant.
Et alors, on continue avec cette flotte qui n'est, entre guillemets, pas du tout rentable. C'est-à-dire qu'on va cramer plus d'argent pour aller pêcher du poisson que le prix de revient potentiel. Enfin, aujourd'hui, on en est là au niveau de la pêche.
Oui, en fait, en 2007, quand la Commission européenne a commencé à donner ses permis spéciaux pour pratiquer cette pêche excessivement destructrice, la vraie question qui aurait dû se poser aux Pays-Bas et à la Commission européenne, qui devrait être le garant des institutions et d'un fonctionnement net et démocratique de notre défense du bien commun, ça aurait été de se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, vraiment, pour cette fois, changer notre paradigme ? C'est-à-dire qu'on est dans des flottes qui sont très impactantes, qui consomment énormément de gasoil, qui ne sont pas du tout sélectives, qui endommagent l'environnement marin et qui permettent du coup, une marge économique très faible, tellement vulnérable que dès que le carburant augmente un petit peu, ça y est, les types sont de fait en difficulté économique. Ça, on va pas leur dire le contraire. Mais en réalité, quand on regarde des pêches artisanales de plus petite échelle, là, on parle de bateaux de 40 mètres. Mais quand on regarde des bateaux de 12 mètres, comme les filayeurs du nord de la France, eux, quand on leur donne évidemment beaucoup moins de quotas, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins de volume comme ces énormes bateaux de 40 mètres, mais ils arrivent à avoir un équilibre économique. En revanche, ils ont besoin d'avoir du poisson. On se demande, mais quand est-ce qu'il y en a un dans l'histoire qui va poser les vrais enjeux économique et ne pas subir un lobbying forcené en craquant sous pression. Ça n'a aucun sens.
Claire Nouvian, la Commission européenne, où en est-elle ? Elle qui est si environnementaliste.
Alors la Commission européenne, sur ce coup, est vraiment mais catastrophique, parce qu'on voit bien qu'ils s'affichent à côté des lobbies néerlandais. En fait, les lobbies néerlandais, les pêcheurs, ils le disent même, ils l'ont reconnu à Londres cette semaine, ils disent « en fait, on n'a même plus vraiment besoin de faire du lobbying ». Bon, ce qui est faux, ils le font quand même de façon forcenée. Pourquoi ? Parce que leur gouvernement, les Pays-Bas, en tant qu'entité diplomatique, maintenant fait le lobbying à leur place. Ils leur payent tout, ils leur ont payé, d'abord, au minimum depuis 2015, imaginez-vous, 5,7 millions d'euros de subventions ont été accordés à des bateaux pour être équipés avec des électrodes. Mmh. Alors qu'on est dans un cas de figure complètement délirant où ces licences n'auraient dû concerner que 5% des flottes de chalutiers. Et on se retrouve, en fait, les Pays-Bas ont équipé jusqu'à 30% quasiment de leurs chalutiers. Donc ils ne sont même pas dans un cadre réglementaire. Donc ce sont des licences qui sont en fait illégales. Et à ces licences illégales, faussement expérimental, ça fait 10 ans qu'ils expliquent qu'ils font de la pêche expérimentale, vous savez, ça fait un peu penser à la chasse à la baleine, quoi. On dit que c'est de la pêche scientifique, en fait, pas du tout. Non. Et bien, ils ont touché de l'argent public, mais par millions. Alors, on leur demande, dites-nous ce que vous avez touché entre 2007 et 2015, mais évidemment, vous imaginez bien que le fichier qui permettrait de calculer exactement ce qu'ils ont touché en subvention publique, d'argent des contribuables européens, eh bien, bingo, ce fichier n'est pas disponible.
Merci à vous, donc Claire Nouvian, donc présidente de cette association Bloom, qu'on vous a écouté d'ailleurs aussi avec les lanceurs d'alerte tout l'été sur France Inter. Donc je vous renvoie à cette pétition, si vous le souhaitez, elle est sur le site de CO2 Mon Amour, puis ailleurs, bien naturellement. Stop à la pêche électrique en Europe. Et alors, pour être un peu dans le même sujet, je vous signale juste que ce soir à 20h sur Ushuaïa, le MAG, sur le câble, eh bien, vous avez Lamia M. Sali de la fondation Sea Shepherd, de fondation de Paul Watson, que je
j'aurai le plaisir d'accueillir. Ça, c'était notre premier sujet. Dans quelques instants, on va partir dans le domaine du rayol, prendre l'air.
Il y a des arêtes là-dedans. C'est possible que ça s'appelle du poisson.
CO2, mon amour.
C'est du sauvage ou de l'élevage?
Bah, c'est du sauvage, c'est marqué, là.
C'est quoi comme poisson?
Du dauphin.
Avec Denis Chessou.
Give a damn. Let me warn you, I'm a man. Don't be your business next to mine. I say I didn't tell you so. You better pack your things and go. You've been so long, it's in the back door. Can't you see I got your eyes? Let me warn you, I'm a man. Be your business next to mine. Business next to mine.
No Business Next to Mine, un groupe espagnol. Oui, c'était The Limbo sur France Inter, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Ça bouge bien. Et là, ça sent le midi. Vous voyez, on va remonter de l'Espagne, on va arriver vers le département du Var.
La balade de Denis Chessou.
Gilles Clément, sous les yeux, là, regardons. On a cette ouverture donc sur la mer, et puis donc on a ce jardin du Rayol qui, comme chez vous d'ailleurs, dans votre vallée de la Creuse, descend. Alors vous, ça descend sur la rivière Creuse, ici ça descend sur la mer.
Oui, c'est un petit peu plus somptueux ici.
Pas mal chez vous.
Mais il y a cette ambiance très particulière qui fait qu'on oublie le bâti et on est pris par le paysage végétal et la mer. Quand on est sur la mer, on ne sait pas qu'il y a un jardin ici. Et ça, c'est ce que je voulais, qu'il n'y ait pas des ouvertures visuelles telles qu'on puisse comprendre qu'il y a là un artifice dans la construction de l'espace. C'est pas ça, ça reste presque comme une forêt naturelle avec des clairières à l'intérieur, chacune d'entre elles étant un paysage méditerranéen différent.
Ce domaine du Rayol a été en fait un des premiers bébés de Gilles Clément comme paysagiste jardinier. Donc, il a eu l'idée évidemment de ce projet, mais qui au départ donc appartient au Conservatoire du Littoral. C'est Olivier Arnaud, je remercie parce que c'est son directeur qui nous a accueillis. Et ce Conservatoire du Littoral a eu 40 ans en 2015 avec comme mission de protéger le littoral ainsi que les grands lacs avec un objectif de 30% de littoral protégé. Aujourd'hui, il y a la moitié du chemin qui est fait. On espère qu'en 2050, On y arrivera, voilà. Et là, ben, nous sommes dans ce lieu qui a échappé quand même gentiment une certaine promotion immobilière à l'époque. C'était un peu chaud. Puis maintenant, tout le monde est très, très heureux de ce domaine du Rayol. Donc cet espace qui est protégé donc de plusieurs hectares. Et on va dire que c'est un jardin qui cascade de 200 mètres d'altitude jusqu'au niveau de la mer. Ça sent bon, hein, ça accueille toutes les essences méditerranéennes. Et on va donc... se promener avec aussi Alain Manceau, donc avec Gilles Clément, et puis aussi Alain Manceau qui est jardinier en chef de ce jardin, de ce domaine du Rayol.
L'essentiel du projet a consisté à reconstituer des paysages par une plante ou plusieurs plantes très caractéristiques de chacune de ces régions et chaque fois différentes, puisque ce sont des régions donc différentes. Alors on pourrait peut-être... pas confondre, mais enfin presque, certaines choses comme les pouillas et les neulines d'Amérique et les pouillas du Chili. On le fait d'un côté au Mexique, de l'autre ici. C'est la construction d'un paysage identitaire et ça n'est pas forcément la même chose qu'un jardin botanique qui est un jardin d'accumulation d'espèces et de collections. Néanmoins, la richesse botanique est ici très grande.
800 plantes méditerranéennes, quoi, ici en plus.
C'est ça, un peu plus même, et parce que on a des plantes du Chili central, de l'Australie du Sud-Ouest, de l'Afrique du Sud, bien sûr de Californie.
Nouvelle-Zélande.
De Nouvelle-Zélande un peu, même si en Nouvelle-Zélande, le climat méditerranéen n'est pas complètement affirmé, mais ici, on a une zone humide qui nous permet d'avoir des plantes de Nouvelle-Zélande sans difficulté.
Alain Manceau, alors là, avec Gilles Clément, on est quoi ? On est au Chili ?
On est au Chili, on est entre Valparaiso et Santiago, dans la zone méditerranéenne du Chili, et on a un paysage typique avec plusieurs espèces de pouillas, une broméliacée qui fait des belles inflorescences, maintenant tout est sec, mais quand on est là, fin mai, début juin, c'est du bleu électrique, foncé, clair, il y en a une qui est toute jaune, jaune électrique, c'est absolument superbe, ça grouille d'insectes, ça grouille, là-bas il y a même des oiseaux qui les pollinisent, c'est vraiment un très beau paysage, et puis quelques cactus au milieu.
Ah, alors Alain, là je vois qu'Hirsus, bon là il n'y a pas de problème, on est dans le chêne, ça c'est sûr.
C'est un chêne liège, on l'a laissé, on en laisse quelques-uns dans le jardin, pas beaucoup, parce que les chênes lièges, quand ils meurent, ça devient des réserves de biodiversité. Il y a des trous où se mettent des chauves-souris. Il y a plein d'insectes dedans, des insectes protégés, des grands longicornes.
Et on dirait, Gilles, une peau d'éléphant.
Oui.
C'est incroyable. C'est un peu ça, quoi. Un vieil éléphant.
On a l'épaisseur qui montre bien la capacité de la plante à résister aux incendies.
Gilles Clément, on est aussi dans un endroit où il y a malheureusement trop d'incendies. Mais il y a aussi des plantes qui ont besoin du feu, donc ce qu'on appelle les plantes pyrophytes. Et de temps en temps, on est un peu tenté de mettre, alors attention, en le contrôlant, mais un petit coup de feu pour faire jaillir ça.
Depuis toujours, les incendies existent à la fin des étés dans les climats méditerranéens. Si les plantes qui ont coévolué avec les incendies, bien avant que l'homme ne soit sur la planète, n'ont pas ces apparitions du feu, elles dorment les semences à l'état de semences et on ne les voit pas pendant jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un feu. Et les feux lèvent la dormance des graines lorsqu'ils arrivent. Autrement dit, ces plantes qui n'ont comme une manière de se reproduire le plus souvent que la graine n'y arrivent pas tant qu'il n'y a pas d'incendie. Autrement dit, c'est positif. Mais lorsque les feux reviennent trop souvent, c'est négatif parce qu'il faut, lorsque des graines germent, qu'il y ait suffisamment de temps pour atteindre la floraison et la fructification, donc les graines, pour qu'il y ait la régénération de l'espèce. Et on sait que lorsque les feux reviennent en dessous de 5, quelquefois 10 ans même, c'est pas bon. S'ils sont seulement tous les 20 ans ou tous les 50 ans, c'est pas grave. C'est au contraire positif. Donc ça, c'est typiquement la mécanique de vie des plantes dites pyrophytes dans les paysages du feu en climat méditerranéen dans le monde.
Et alors, c'est là qu'est née, en fait, Gilles Clément, votre idée du jardin planétaire.
Oui, disons que parce que je suis allé, pour le domaine du Rayol, faire un peu le tour du monde pour retrouver et chercher ces plantes-là, j'ai constaté à chaque fois quelque chose qui est un trait particulier du jardin et qui correspond avec le premier jardin humain dans le monde, c'est le brassage planétaire. Un jardin, c'est un enclos. C'est un endroit qu'on protège des plantes, qu'on est allé chercher loin ou proche, mais qu'avant on allait chercher là où elles se trouvaient. Tandis que là, on les apporte.
C'est pas pareil.
C'est le début du brassage planétaire, car de plus en plus, on est allé chercher de plus en plus loin, quelquefois même en allant traverser des continents, et on les apporte. Et puis ensuite, elles s'échappent des jardins, et elles finissent par s'installer dans un paysage qui n'est pas le leur d'origine. Et ça, ça existe aujourd'hui partout dans le monde. Ça veut dire qu'en Nouvelle-Zélande, on va trouver des capucines du Mexique. Qu'au Chili, on va trouver une plante qu'on appelle la griffe de sorcière et qui pousse ici aussi beaucoup, là-bas, sur les côtes, et qui vient d'Afrique du Sud. Et tout est comme ça, absolument partout.
Oh, et puis ça sent bon, là.
Qu'est-ce que c'est, là?
C'est une plante qui sent le curry, c'est un escalonia. C'est
pas l'écurie, hein, le curry.
Le curry, l'épice, le curry, c'est la plante qui est juste derrière, là.
Et voilà, regarde, on le sent, là.
Les plantes... Dans le mécanisme de coévolution, se sont adaptées, ont évolué, quelques-unes ont migré, d'autres sont restées sur place avec les changements climatiques et se sont fabriquées des outils de résistance aux conditions qui nous paraissent parfois extrêmement difficiles. Oui. Se mettre une protection comme une espèce de cuticule, ce qu'on appelle la sclérification chez les végétaux, qui les protège de la déshydratation et de l'évaporation.
Ce que font des insectes.
Ce que font les insectes, c'est pas mal. Transformer les feuilles qui sont trop larges et qui évaporent trop en épines qui sont dures et qui n'évaporent pas, c'est très intelligent. Donc tous ces mécanismes-là, ça nous étonne, c'est ce que moi j'appelle le génie naturel, et ça intéresse, disons, une flore qui est spécialisée en rapport au climat et qui n'a pas besoin de l'assistance humaine. Donc on a intérêt à se servir de cette flore-là, surtout si le climat change et ça sèche chez nous, et d'aller voir ce qui, venant de l'extérieur de zones tropicales sèches, par exemple, pourrait s'adapter aux régions qui sont méditerranéennes et qui changent de climat aujourd'hui.
C'est un régal. La balade n'est pas finie. Non, on va poursuivre donc avec le domaine du Rayol. Et aussi avec un homme que vous allez découvrir qui s'appelle Sibiri Badoun, parce que c'est un universitaire, géographe du Burkina Faso, et qui s'intéresse aussi beaucoup aux plantes méditerranéennes pour des questions aussi de sécheresse. Musique.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées. Sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées. Pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés. Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil se lève aussi.
le soleil et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait.
C'est joli ça, merci à Muriel Pérez d'avoir donc programmé Jeanne Chéral et Bernard Lavilliers, l'espoir. Et alors, l'ami Varro vous présentera le 12 décembre, c'est pas tout de suite, mais c'est formule que l'on aime nous sur France Inter. Donc Bernard Lavilliers sera en concert sur Inter en direct du studio 104, donc le mardi 12 décembre dans sa formule full band, et ça va quand même bouger. Ah, on entend la mer. C'est normal, nous sommes au pied du massif des Maures, on est en face, regardez, vous avez les îles d'Hyères, hein, entre le Lavandou et Saint-Tropez, voilà, et nous sommes donc dans le domaine du Rayol, dans la commune d'ailleurs du même nom, du Rayol, avec Gilles Clément, Olivier Arnault, le directeur n'est pas loin, et il y a Alain Manceau, donc toujours notre chef jardinier, et là on repart tranquillement, respirez, bah tenez, il y a de quoi respirer. De la lavande... De la bruyère.
Ici, dans le domaine du Rayol, on a juste toute une collection de cystes. On a 25 espèces botaniques de cystes. Mais à peu près tous ces cystes fonctionnent de la même façon. Bon, là, on est en dehors de la période de floraison. La période de floraison fin avril, on va avoir ce fruit. Les graines vont tomber au sol. Et en fait, il faudra naturellement attendre le passage du feu pour dégager, en fait, le cyste a besoin de la lumière pour germer. Donc, tant qu'on est dans un maquis qui est dense, elle ne va pas germer, il y a le passage du feu, et là, on va voir les germinations de cyste. On a vraiment une plante qui est adaptée au feu, qu'on va retrouver dans tous les pays autour de la Méditerranée.
Parlons un peu de l'évolution. Réchauffement climatique. On va passer d'un climat méditerranéen, alors on va peut-être pas dire complètement subtropical tout de suite, mais on est quand même sur une tendance.
On est sur une tendance, en tout cas on est sur des modifications qui vont aller vers des systèmes climatiques dont on ne connaît pas exactement les caractéristiques et qui n'ont peut-être pas encore de nom. On sent que peut-être le climat méditerranéen pourrait se rapprocher du subtropical sec, mais c'est pas forcément ça qui va se passer. On n'en sait rien. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir trouver une nouvelle liste, un nouveau vocabulaire pour caractériser les climats qui risquent d'être un peu plus perturbés, en fait, avec des changements, des brutalités, de sécheresse ou d'eau. Donc on ne sait pas pour l'instant.
Il y a toujours eu, dans la vie, apparition, disparition. C'est le principe même, effectivement, de la vie. À part que là, il y a peut-être une accélération du phénomène.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'activité humaine, c'est ça l'anthropocène, serait à l'origine des modifications dans un temps très court. C'est de nouveau en discussion. Il paraîtrait qu'il y aurait eu des mécanismes dans l'évolution, notamment dans la chute des disparitions des dinosaures, qui auraient été à des moments très rapides. Ouais. Mais quand même, nous savons que si nous voulons atténuer les chocs de ce changement climatique, hein, les difficultés de vie pour les humains, il nous faut commencer très vite à changer de mode de vie et que les résultats ne seront que dans 50 ou 100 ans, c'est-à-dire que c'est pas pour nous, mais il faut bien commencer. Le problème, c'est que ça n'est pas suffisamment dramatique pour que les humains aient tous ensemble décidé de le faire.
C'est-à-dire que c'est déjà dramatique à certains endroits, mais pas forcément dans tous les pays occidentaux.
Pas dans tous les pays occidentaux, et pas pour ceux qui tiennent la planète en main et qui sont les riches, qui pensent qu'ils ont les moyens de s'en sortir, comme toujours.
là, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on réfléchit aussi à la sécheresse, à l'aridité. Sibiri Sadoun est avec nous. Bonjour Sibiri.
Bonjour.
Alors, vous venez, vous en faites du Burkina Faso. Vous êtes un géographe et vous intéressez depuis très longtemps, grâce à une association qui s'appelle Opération Oasis Sahélien.
C'est une association de droit burkinabé.
Dans un pays, évidemment, qui est quand même bien bousculé politiquement par le terrorisme, par évidemment le manque de moyens, à cette sécheresse. Comment ça se passe chez vous? Quelle est la traduction de la sécheresse chez vous?
En fait, nous avons deux saisons au Burkina, sur le plan climatique.
Vous avez une saison des pluies qui va durer quoi?
3 mois, ouais. De mi-juin à mi-septembre. Et c'est pendant cette période-là qu'il faut que nous produisons le mil de sorgho, voilà, pour remplir nos greniers et survivre. Et pendant cette période-là, le problème principal, c'est en fait la répartition des pluies dans le temps. Parce qu'on a des poches de sécheresse qui viennent perturber le cycle agricole.
Donc il y a un cycle qui démarre, et puis si on dépasse 3 semaines, voilà, sur certains végétaux, les végétaux ils meurent.
Et finalement, c'est des famines qui s'installent. Oui. Il faut lutter pour trouver les grains pour survivre.
Ce qu'on appelle le zaï, qu'est-ce que c'est le zaï?
Le zaï, c'est un trou de 30 cm de large, 15 cm de profondeur, dans lequel les paysans mettent du compost, tout juste avant la saison des pluies. Et dès qu'il y a des pluies, les premières pluies, c'est à cet endroit-là que la graine sera semée. Et l'avantage d'un zaï, c'est qu'elle permet de conserver l'humidité et aussi apporter à la plante le maximum d'éléments nutritifs.
Et donc ça fonctionne? Donc il y a de la formation, il y a de l'éducation, il y a de l'aide?
Oui, ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir de bons résultats parce que les paysans qui pratiquent cette méthode-là arrivent à avoir, malgré les sécheresses, arrivent à avoir de bonnes récoltes ou assez bonnes récoltes pour assurer leur survie.
Et puis il y a aussi autre chose, on a très peu de pluie, alors chez nous on fait des retenues collinaires et vous faites ce qu'on appelle des boulis.
Donc les boulis, c'est des trous plus grands que les zaïs qui font 50 mètres de diamètre et 5 mètres de profondeur qui sont réalisés dans le but donc de collecter l'eau de ruissellement pendant la saison des pluies. Et après la saison des pluies, comme tout est sec, nous aménageons donc des parcelles autour du boulis et les paysans donc arrivent à produire des légumes pour compléter en fait le manque à gagner pendant la saison de pluie.
Qu'est-ce que ça vous inspire, donc, ce que nous dit donc Sibiri, parce que vous, l'homme des plantes, l'homme de l'adaptation, bah, évidemment que ça, je pense qu'il y a des images qui doivent arriver, quoi.
Ça me réconforte parce que ça veut dire qu'il existe bien une manière de faire dans un pays qui n'est pas facile pour la culture. Cette manière, elle a été obtenue par l'expérience très pragmatique, hein, du travail sur le terrain. Ce n'est pas une vision lointaine du rendement, ce n'est pas une vision technocratique du tout. Et je trouve qu'il y a des points communs entre cette manière de faire qui est assez délicate et intelligente et ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture, où il existe par les enfouissements des matières organiques, c'est le cas du compost là-bas, un maintien de l'humidité qu'on n'a pas par d'autres moyens.
Les narines qui fonctionnent tout le temps ici, parce qu'on est quand même sur de la silice. Donc silice, ça veut dire qu'on est sur du maquis.
Oui, on est sur du maquis. La garrigue, c'est plutôt sur des sols calcaires. Et la série floristique est différente. Il y a des points communs. Le pin d'Alep arrive à pousser un peu partout. Il y a même des arbousiers, d'ailleurs, qui y arrivent. Mais enfin, ce n'est pas caractéristique du la garrigue, ça. Donc il y a deux milieux méditerranéens qui sont assez distincts.
Quand on regarde ce merveilleux mimosa, Bormes-les-Mimosa est juste à une portée d'arbalète d'ici. Nous sommes jumelés avec l'Australie.
Absolument. Ce n'était pas une plante qui existait autrefois ici. Elle est arrivée à la deuxième moitié du 19e siècle, de même que les eucalyptus. Mais en plus, les mimosas ont la capacité, ont la force de séduction qui fait que tout le monde dit « mais voilà, c'est presque local.
Oui, » C'est de chez nous.
C'est de chez nous. Ben non, pas du tout.
Puisque nous sommes dans un média de parole, on essaie de communiquer, Gilles Clément. Qu'est-ce que l'on découvre actuellement sur la communication des végétaux?
On découvre assez peu de choses parce que le nombre d'expériences de recherche, disons, faites là-dessus, c'est pas énorme. Mais il y a 4 chercheurs, dont certains du CNRS, de l'INRA et d'autres, sont engagés sur un projet à partir du domaine de Cargèse, qui est au CNRS en Corse, sur ce thème-là, celui de la conversation entre les plantes. Là, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a quelque chose qu'on connaît très bien, qui ont été très très bien décrits dans plein de livres, dont ceux de Jean-Marie Pelt, évidemment. mais il y a un mystère sur la façon dont ça se passe, dans les synergies positives ou négatives, les plantes qu'on met côte à côte et qui seraient utiles pour le jardinier, de savoir en tout cas qu'est-ce qui va bien, voilà, et qui nous éviterait de faire des bêtises, de dépenser énormément d'énergie contraire pour obtenir les résultats qu'on souhaite, alors que déjà la nature a mis au point, par son génie naturel,
ses propres stratégies, ses propres alliances.
Voilà, ses propres alliances, et que là, on l'aurait gratuitement. La difficulté est que ces informations-là soient mises à la disposition de tous ceux qui veulent s'en servir, jardinier ou pas, c'est pas obligé de s'en servir, mais qu'au moins ce soit porté à la connaissance de tous et pas récupéré par le marché, par le brevetage, avec une pression sur le législateur pour interdire l'accès à l'usage gratuit. Ça, c'est insupportable. Donc, c'est tout le problème, et c'est le seul, parce que sinon, les scientifiques, ils sont d'accord pour chercher là-dessus, et ils ont trouvé déjà quelque chose. La pilosèle, elle émet des toxines au bout de ses racines pour se désherber. Nous, on n'a pas appris ça en classe. Et là, elle enlève les graminées. C'est une toute petite plante qui pousse dans les terrains secs, c'est intéressant.
La pilosèle.
La pilosèle, oui. Hieracium pilosella. Ce jardin sur la côte dite d'Azur, enfin...
Devenu peut-être un peu côte d'Azur dans certains cas.
Dans certains cas, voilà, c'est ça. Il est très différent de la plupart des jardins qui ont été imaginés ici depuis l'époque où c'était la mode. Il a une dose d'artifice qui est extrêmement faible et il utilise le génie naturel et la puissance de la nature, sa diversité, avec un choix d'espèces capables de vivre avec une assistance, disons, même s'il y a beaucoup de jardiniers ici, très limité. C'est pas du tout comparable avec ce qu'on fait ailleurs. C'est-à-dire que c'est une sorte d'école expérimentale, d'un jardinage du futur, où on ferait avec et pas contre la nature.
Et c'est une économie de la non-dépense, comme vous dites.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la vraie économie pour moi, c'est celle de la non-dépense.
Bon, ben merci beaucoup, Gilles Clément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous allez revenir dans 3-4 mois, sinon vous ayez votre dose de rayon.
Hein. Oui, mais j'en ai besoin.
Un régal d'aller respirer dans ce domaine du Rayol, qui est ouvert évidemment, je vous invite à le visiter et tranquillement, de faire cette parenthèse botanique et merveilleuse. Oui, carrément. Gilles Clément donc, et puis donc Alain Manceau avec donc Olivier Arnaud. Merci beaucoup à Rémi Quincé pour son mixage et puis bien sûr à Xavier Pestugia pour sa réalisation. Nous allons partir dans quelques instants à Nancy, puis après on va réparer peut-être nous-mêmes nos objets.
Dans un coin de ciel bleu, un dimanche de trop, où ton cœur amoureux frissonne sous la pluie. Quelle tragédie, c'est un dimanche de plus, où il n'y a rien à faire qu'un tour de vélo sur la roue arrière, un ciel entre le gris. Pire qu'à la vie, une journée de rien. Un jour pluvieux, c'est toujours une journée au moins. Ouais, c'est bien mieux. Puisqu'on est deux au monde. C'est un dimanche. Sur la corde à linge, nous n'irons pas aux eaux. Il neige sur les singes, mais pas des confettis. Pire qu'un lundi, c'est un dimanche de pluie, sans oiseaux dans la zone, sans marcher dans l'eau, en gardant ses chaussures. Le ciel entre de gris, c'est assombri, une journée de rien. Un jour pluvieux, c'est toujours une journée au moins assez mieux, puisqu'on est deux au monde, puisqu'on est deux au monde. Thank you.
pas la plus connue, mais très agréable. Donc Gréco, bien sûr, de au monde. Après le Var, allez, on remonte tranquillement à vélo, en train, et on arrive à l'Est. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Nancy. Il se trouve que donc Interception se posera ce dimanche, donc demain, sur un terrain qui nous est cher dans ces Hauts de mon amour, c'est celui des phytosanitaires, des pesticides. Et depuis le début 2017, eh bien, l'État, les établissements publics et les communes n'ont plus le droit d'utiliser des produits chimiques pour le traitement des espaces publics. Alors pour les municipalités en particulier, c'est des changements de pratique, hein, c'est pas toujours facile à gérer, parce que donc les pesticides ont au moins un avantage sur la binette et le lance-flamme, c'est que pour tuer les herbes, il suffisait d'une bonne giclée et le tour était joué. C'est pas nos amis de la FNSEA qui vont nous contredire. Dans ce domaine donc de la réorganisation du travail, il y a une ville donc, qui a précédé la loi il y a pas mal de temps, hein, maintenant, et qui peut donc faire office d'exemple, voire de conseil, c'est Nancy. Donc elle a proscrit l'emploi des produits chimiques dans ses parcs et ses jardins depuis une douzaine d'années. Un avant-goût du reportage de demain avec Laurent Vatrin, et on écoute Pierre Didier Jean qui dirige le service des parcs et jardins de la ville.
Sans pesticides à Nancy, c'est depuis déjà 2000 dans nos serres municipales où on a installé une protection biologique intégrée. C'est-à-dire qu'on n'a aucun produit phytopharmaceutique et on va acheter dans des laboratoires des auxiliaires. Donc tout le monde connaît la coccinelle qui va se nourrir d'autres insectes ravageurs. Et puis dans les parcs, donc c'était notre souhait aussi, mon souhait qu'il n'y ait plus du tout de produits phytopharmaceutiques. Moi qui viens de la nature, je suis vosgien, j'avais un grand-père qui adorait les arbres, qui plantait énormément d'arbres, et il n'y avait pas besoin de traiter les arbres, ils sont suffisamment forts pour justement trouver leur équilibre à eux. Et depuis qu'on ne traite plus les arbres, parce qu'ils étaient traités auparavant, on mettait des acaricides contre les petites araignées rouges, et depuis qu'on ne traite plus du tout, tout se passe bien. On fait l'appel, par exemple, pour le Cameraria auridella, qui est une maladie sur le marronnier. On a des pièges à faire hormones, donc avec des hormones sexuelles, où on va attirer les mâles qui vont être emprisonnés dans ces petites cages.
Alors, quelles espèces, justement, on cultive ici, dans les parcs et jardins? Comment on organise les choses?
C'est en fonction du site où on est. Il y a toujours ce respect de l'histoire. Quelles essences d'arbres étaient présentes, par exemple, au parc de la Pépinière? Alors, mais bien sûr, le climat change, donc il y a des végétaux qui vont moins bien s'adapter. Donc on doit expérimenter. Et surtout, ce n'est pas lancer des grandes plantations avec des grands alignements, avec des quantités très importantes, parce qu'après, si une maladie ou un insecte ravageur venait, on va décimer une partie. Alors à Nancy, notre particularité, je dirais que c'est peut-être parce qu'on a des antécédents. Ces antécédents, ils sont très très lointains. L'école de foresterie est né à Nancy sous Charles X. Et alors, très très attentif au climat, au sol, quelles essences se plaisent ou pas. Et puis, c'est travailler aussi avec des professionnels, des pépiniéristes, qui vont nous donner des végétaux. Et on va les expérimenter dans nos espaces de nature. La pédagogie est importante, donc vous verrez, il y a des petits panneaux qui fleurissent dans nos espaces de nature, des petits panneaux métalliques justement, parce que nous sommes très soucieux du développement durable, où on a imprimé sur ces panneaux zéro produit phytopharmaceutique, zéro produit chimique, on met aussi le mot chimique, dans nos espaces de nature depuis 2005. Et ça, c'est essentiel.
Alors c'est essentiel, évidemment, cette pédagogie, parce qu'on va quand même rappeler qu'au 1er janvier 2019, eh bien, l'interdiction des phytos sera aussi élargie aux particuliers que nous sommes tous. Mais vous, dans CO2, vous êtes déjà à la binette hein, depuis longtemps? Oui, peut-être, oui, ne sais pas. Bon, on verra. Donc on reste à Nancy, et là on va rencontrer donc Stéphane Arter. Et Stéphane Arter, c'est donc l'adjoint du même service des parcs et jardins. Et là, on est devant un très bel arbre traité avec... Ah bah non, sans pesticides.
Au printemps, il y a la circulation, la sève, on sent des différences de température. Et vous le sentez quand vous touchez l'arbre. Ce n'est pas seulement le côté sensuel. Et là, on se dit qu'un arbre, c'est un être vivant. Et puis, on a aussi le concept de finitude d'un arbre. Quand on parle d'être vivant, il y a une naissance, il y a une vie et il y a une mort. Alors, potentiellement, l'arbre est immortel. Il a la capacité de se régénérer. Mais il est de temps en temps soumis à des pressions, à des maladies, des champignons peuvent l'attaquer. On a des surveillances permanentes, des bulletins de santé, notamment pour notre hêtre pourpre, qui est un arbre majestueux, mais qui est attaqué par deux champignons, l'inivore qui mange le bois, qui le ronge, parce que quelquefois la maladie n'est pas visible de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, les champignons font leur travail de destruction. Donc, il faut aller radiographier l'arbre. Et quand il est malade, il a une capacité de réaction. Il va, par exemple, fructifier. C'est-à-dire qu'il sent qu'il est en fin de vie. Et l'instinct de survie, de reproduction, existe chez les arbres. Donc, il va fructifier beaucoup plus.
Là, on va vous dire, mais pourquoi on ne remettrait pas un petit coup de pesticide ?
Ah, ça serait pire. Alors, parce que le produit phyto tuait la vie microbienne de façon indistincte, souvent. Hein. Alors, on nous disait, oui, il y a des produits phyto qui sont ciblés, mais on savait très bien que ça tuait la vie souterraine. Quand on voit dans le parc ici que tous les vers de terre sont revenus en masse, parce qu'il y a un volume de vers de terre au mètre carré, c'est fantastique, quoi.
C'est
énorme.
Signe de bonne santé.
Ah, bah, oui, parce que les vers de terre, ils travaillent H24. Et ils travaillent à aérer le sol, à le rendre fertile. Et ça, l'arbre, il adore. Hein. Je pense qu'il est très ami avec les vers de terre.
Non, mais sympa le vers de terre, hein. Il pose pas de préavis de grève, tout ça. Non, ça turbine vraiment beaucoup. Donc ça, c'était un petit échantillonnage. Mais demain, vous aurez donc ce reportage en entier dans Interception, donc demain matin. Le magazine d'environnement, non, le magazine de reportage de Pascal Derrier, Vanessa Descoureaux et Philippe Bardonneau. Ça ferait très plaisir à Jean-Marie Pell parce qu'il a un jardin qui lui est dédié, qui porte son nom, donc aussi à Nancy.
On est tombé sur un arbre. On est tombé sur un arbre.
CO2, mon amour.
Il vaut mieux tomber sur un arbre que de rentrer dedans.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ?
Avec Denis Chessou.
Vous voyez bien que la chance existe.
Sur France Inter.
Ah oui, faites attention, on est abîmé par les arbres, voilà. Et puis alors, si vous abîmez, on sait jamais, je sais pas, moi, un grille-pain, votre réfrigérateur, que sais-je, eh ben, il y a peut-être des solutions. Bonjour, Anémone Berès.
Oui, bonjour.
Eh ben voilà, vous êtes à côté, vous n'étiez pas loin, mais c'est formidable.
Pas trop loin.
Merci d'être avec nous, parce que là aussi, nous avons une actualité avec ce qu'on appelle le Green Friday. Alors, donc, ce vendredi vert qui est en opposition, on va dire, au vendredi noir, vous allez nous dire ce que c'est, mais déjà, vous êtes la présidente du réseau Envie. Alors, rappelez-nous ce qu'est le réseau Envie, s'il vous plaît.
Le réseau Envie, c'est une très belle aventure qui est née il y a 33 ans maintenant. C'est 50 entreprises en vie réparties dans toute la France, dont la vocation est à la fois de créer des emplois solidaires, 2100 salariés, qui sont des salariés en insertion, plus 500 permanents pour les accompagner, et qui rénovent, réparent, remettent en circulation des machines d'électroménager principalement, mais aussi téléviseurs, tout le gros équipement électronique et électrique, le remet en circulation, et toutes ces machines, soit on peut les réparer et on les revend dans nos magasins, 45 magasins dans toute la France, on les vend moins cher, on permet à tout un tas de publics qui ne peut pas acheter des belles machines neuves tous les jours à gros prix, de pouvoir s'équiper. Et celles qu'on ne peut pas réparer, on les démantèle, on fabrique des fractions de matière à partir des matériaux de ces machines et ainsi on transforme des déchets en ressources dont notre planète a bien besoin.
On est vraiment dans une économie circulaire qui était simplement le bon sens, hein, cette économie circulaire de nos grands-parents autrefois, même s'il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées, heureusement, on est dans le réduire, évidemment, les déchets, mais aussi réparer et aussi recycler. Donc quand même 100 000 équipements tous les ans, donc grâce à ce réseau Envie, qui sont remis sur le marché et qui peuvent continuer. Donc vous luttez aussi peut-être contre une obsolescence programmée. Et alors, donc cette opération-là, du 23 au 25 novembre, c'est pour ça qu'on prend un petit peu notre. C'est donc la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va être ?
Alors vous l'avez dit en introduction, on lance quelque chose qu'on espère bien rendre un rendez-vous annuel et donner aussi de retentissement que ce Black Friday que vous avez cité. Nous, on s'élève un peu contre ça, on lance le Green Friday. On joue un peu notre rôle de pionnier, on était pionnier d'économie circulaire. Là, on voudrait être lanceur d'alerte et dire arrêtons cette surconsommation que représente l'opération commerciale massive importée des États-Unis qu'est le Black Friday. Arrêtons cela. Au contraire, profitons de ce moment pour accueillir dans nos ateliers tout le public qui est prêt à prendre conscience de ça et à venir découvrir qu'on peut au contraire consommer autrement. Faisons plutôt un Green Friday. Alors notre Green Friday, il dure jeudi, vendredi et samedi, hein, élargissons un petit peu l'horaire parce qu'on a bien besoin de ça pour montrer aux gens qu'on peut réparer, que des machines réparées, elles sont garanties durablement. Elles peuvent partir, repartir pour un circuit pendant une dizaine d'années. Et on a tout un tas d'animations et d'ateliers ouverts proposés dans nos différents magasins en France. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelques exemples.
Vous avez droit à un exemple, on y va.
Un exemple que j'aime bien, par exemple, Envie à Lyon et à Saint-Étienne, nos deux magasins vont offrir des bons d'achat à vie sur concours à quelques-uns du public qui viendra rendre visite à ces magasins. Pourquoi des bons d'achat à vie? Justement, c'est un symbole très fort. On n'a pas forcément besoin de se précipiter pour acheter une machine sous prétexte que ce serait un Black Friday avec des promos qui sont parfois des fausses promos. On achètera tranquillement sa machine, ou elle sera offerte pour les heureux gagnants de ce concours à Lyon et à Saint-Étienne, le jour où on en aura besoin. Et en attendant, on fait durer et on préserve nos ressources.
Merci à vous, Anémone Berès, et puis vraiment le site d'Envie sur le site de CO2. Mon amour, merci beaucoup. 01 56 40 40 35. Vous en avez l'habitude, c'est le numéro du répondeur.
Ça vous dirait d'essayer de passer une semaine sans plastique? C'est ce que vous propose l'association des Sables d'Olonne, tous dans le même bateau. Du 20 au 26 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, le principe est simple et absolument gratuit. On s'inscrit par mail à semainesansplastique@gmail.com ou rejoignez-nous sur Facebook, objectif Semaine sans plastique. Ensuite, on s'efforce pendant cette semaine de ne pas utiliser de plastique jetable et de réduire sa production de déchets. Oui, vous allez me dire, c'est impossible. C'est vrai qu'on est envahi par le plastique. Mais si pendant cette semaine, vous parvenez à prendre 2-3 nouvelles habitudes, comme boire de l'eau du robinet, acheter plutôt des produits en vrac que des produits suremballés, c'est gagné. Alors je vous dis à la semaine prochaine, du 20 au 26 novembre, pour une semaine sans plastique avec l'association Tous dans le même bateau.
Chouette, merci beaucoup. Et donc on se retrouve nous aussi la semaine prochaine. Ce sera une semaine non pas sans CO2, mon amour. Vous allez voir, il y aura des choses en plus. Merci donc à Vincent Godard et à Julien Michel à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Allez voir aussi sur le Twitter Initia Verte. Voilà, notre Twitter, le perso, c'est chez Sou, voilà, tout simplement. Alors, la semaine prochaine, donc, là, nous serons en direct du Salon du Livre de Radio France. Hein, c'est une opération qui marche très, très bien. On est très heureux, très, très fiers de ça. Donc, en direct du Salon du Livre, CO2 Mon Amour. Il y aura Audrey Poulevard, il y aura Hubert Reeves et François Spériot. Et puis, comme ça ne suffit pas, à 17h, je vais vous retrouver exceptionnellement pour les 30 ans de La Tulu, Mon Petit Loup. Et ça, on va le fêter au studio 105. Vous dire ce qu'il y a dedans, ça va être trop long, puis c'est pas encore exactement finalisé. Donc, les 30 ans de La Tulu, Mon Petit Loup, on parlera de livres pour enfants, vous l'avez compris. Ce sera au studio 105. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Le podcast, abonnez-vous au podcast. Rediffusion entre 5h et 6h du matin.